HB Fest 2022, festival punk rock ska à Bures-sur-Yvette, en live sur BLP Radio.
BLP Radio. BLP Radio.
Je suis en compagnie de Max, chanteur de Los Tres Puntos. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Los Tres Puntos qui joue donc ce soir sur la scène du centre culturel Marcel Pagnol. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu les membres du groupe qui joue quoi ?
Alors, Los Tres Puntos, ce soir, on est 8 sur scène. Alors, on a Fab à la batterie, on a Jérôme à la basse, on a Howard au clavier, c'est une première, c'est notre backliner normalement, mais ce soir, il remplace notre clavier qui n'était pas disponible. Waouh, il a pris du galon. On a Powell, qui est chanteur-guitariste en espagnol. On a Lolo au sax baryton, Mel au trombone, Jay à la trompette, et puis moi, guitare, chant et trombone.
Alors Los Tres Puntos, c'est un groupe qui est assez ancien, hein, puisqu'il s'est monté en 95 et c'était un groupe de lycée, hein, à la base. Comment le projet il a évolué depuis ? Quelles ont été un peu les étapes marquantes ?
Bon, on a commencé par avoir notre bac, étonnamment, tu vois, mais voilà. Donc ouais, complètement groupe de lycéens, mais comme on a baigné là-dedans, on montait tous des groupes à l'époque, et puis on a sorti notre premier album autoproduit, et qui a connu un certain succès, ça nous a donné l'envie de continuer, et on a enchaîné et les albums, et les dates, et les concerts, et les tournées, et puis on s'est pris au jeu, et puis en fait, le fait est que quand tu t'amuses, le temps passe vite, et que oui, ça fait 27-28 ans qu'on fait ça, quoi. Et voilà, avec le point commun qu'on a depuis le début, c'est qu'on est des passionnés de cette musique-là. On fait ça avec cœur, avec générosité, et on se fait plaisir à être là, à être sur scène, à défendre les chansons qu'on crée et à s'amuser à créer des chansons. Quoi. Voilà, c'est un cercle vertueux avec lequel on s'amuse depuis plus de 25 ans maintenant. Quoi.
Et dans le line-up de départ, il n'y avait pas de cuivre, me semble-t-il. Pourquoi il y a eu cette envie ?
Alors, au tout début, on a acheté des instruments pour monter Los Tres, hein. Donc on a commencé la musique, on avait 15 piges, 16 piges, et puis on mettait nos bois boudinés sur les guitares en comptant les cases, hein. Voilà, on est de l'école punk rock, et du coup, pour jouer le ska c'est une musique qui est à contre-temps, et tu penses bien qu'on n'avait absolument pas le niveau, donc il s'est passé au moins 2-3 ans avant qu'on essaye de dompter un petit peu ce contre-temps-là, en effet avec les deux guitares chant, qui sont encore là actuellement, le clavier et la basse-batterie de l'époque. Donc on a fait 2-3 ans comme ça, vraiment pour poser une rythmique. Une fois que la rythmique était posée, là on a commencé à faire venir des cuivres. Parce que le ska, ça joue avec des cuivres quand même, aussi.
Alors en plus de 25 ans de carrière, est-ce qu'il y a un ou deux souvenirs marquants qu'on pourrait retenir ?
Non, je ne m'en rappelle plus. Non, des souvenirs, tu vois, je lis souvent, mais chaque week-end de concert qu'on peut faire, des anecdotes, t'en as... par paquet de 12, tu peux avoir des scénarios pour 12 courts-métrages, pour de vrai en fait. Donc on a cette chance-là, et c'est aussi un des trucs qui nous fait, qui nous fait encore briller les yeux quelques années après, c'est que chaque week-end, c'est une vraie aventure en fait. Donc en effet, on a des anecdotes par paquet de 12, quoi. Bon là, si je vais à la plus récente, je sais pas, il y a deux week-ends, on s'est retrouvé à tomber en rade dans un champ à patates dans le fin fond de la Picardie à 3 du mat. Voilà, ça c'était pour nous rappeler à nos heures de gloire. Bon, c'est pas le plus glorieux, mais en même temps, ça fait des vraies anecdotes qui te font sourire une fois que c'est passé. Après, dans des anecdotes marquantes, qu'est-ce qu'on a eu ? Ouais, la première fois, on a pu jouer à l'étranger, on s'est retrouvé à aller jouer en Suisse. Et qu'on était très contents de pouvoir jouer ailleurs, et on s'est retrouvé à l'époque avec une salle qui était blindée, les gens qui connaissaient les chansons par cœur, et nous ça nous semblait complètement improbable, et c'était à l'époque, c'était avant internet et tout ça, les gens arrivaient avec des CD gravés pour nous les faire dédicacer, c'était assez ouf. Après dans les vrais, enfin dans d'autres anecdotes, je peux t'en citer 4000, hein, mais là récemment en 2018 on a eu la chance de pouvoir partir au Mexique, on a été jouer à Mexico, et on s'est retrouvé à jouer dans un zénith plein à craquer avec des gens qui étaient complètement fans. Alors après, il faut savoir que le ska au Mexique, c'est une musique très, très très populaire. C'est vraiment des musiques qui remplissent des stades et tout ça. Et que depuis tout le temps, on savait que... Parce que depuis l'arrivée d'Internet, on reçoit beaucoup de messages de Mexicains. Mais on ne pensait pas que ça allait prendre... Enfin, que c'était ça à vivre, en fait. Donc voilà, tu te retrouves avec vraiment des gens très, 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 très fans. Ça, c'est improbable. Parce que nous, on vient quand même de la scène alternative française. Donc c'est plus laborieux que ça. Après, on a la chance de jouer régulièrement et souvent, et devant un public qui est là et tout ça, mais bon là c'était un level un peu au-dessus. Là dans les anecdotes, celle-là elle est un peu vénère, c'est un peu au-dessus quoi.
ne s'achète pas. Y'a pas de vente en gros, ça ne se voit pas. C'est pas la mode, ça rend pas beau. Ça se calcule même pas. Ça vaut rien, c'est pas nouveau. Mais ça ne fait pas de toi une machine, un numéro.
Alors les albums que vous sortez, ils sont autoproduits. Pourquoi c'est important pour vous d'être indépendant? Et puis quelle relation vous avez peut-être par rapport au reste de l'industrie musicale?
En fait, nous on a commencé la ZIC parce qu'on était enfant du rock alternatif français. Donc c'était les Beru, Ludwig et compagnie. Et qu'on a pris un peu au pied de la lettre, vive le rock libre des Beru en fait. Et que pour nous c'était important de pouvoir se dire, on n'a aucune intention et ambition autre de faire ce qu'on a envie de faire. Du coup on est assez autonome, on a besoin de personne en fait. Donc on a appris à jouer des instruments, à faire des chansons, on a appris à faire tourner notre groupe, on a appris à promouvoir notre groupe et on a appris à produire notre groupe en fait. L'idée c'était quand même d'être vraiment autonome. Ça c'est quelque chose qui fait partie vraiment de l'âme du groupe, de l'ADN du groupe. Alors c'est, tu vois, en 25 ans il s'est passé mille vies, hein, parce que tu vois l'industrie de la musique il y a 25 ans c'est pas du tout la même qu'il y a aujourd'hui, et qu'à l'époque justement on avait pu remporter un certain succès on va dire avec notre premier autoproduit, et que à l'époque on pouvait te dire oui bon voilà ton premier autoproduit il marche, donc maintenant ça y est t'es arrivé, tu peux te faire signer, et là nous on s'est retrouvé avec des propositions et à dire bah non en fait ça nous intéresse pas, et c'était assez intéressant de se rendre compte qu'à l'époque on nous prenait soit pour des débiles, soit pour des fous, mais en tout cas les mecs n'avaient pas compris comment ça marchait, et que nous on était quand même un peu droit dans la boîte. C'est-à-dire non mais en fait on n'en a pas envie, on n'en a pas besoin, et voilà. Après ce qui est assez intéressant de voir, c'est que arrivé là-dessus, la crise du marché du disque, allez, 2005, 6, 7, où là tout d'un coup tous les groupes qui allaient signer à droite, à gauche sur des labels, ces labels n'existaient plus et tous ces groupes ont splitté parce qu'il n'y avait plus personne pour mettre du pognon. Et l'avantage de quand tu es autonome, tu ne dépends que de toi. Donc autant te dire que la crise du marché du disque au sens large du terme, et qui a pu muter ces 10-15 dernières années, si on n'avait pas été autoproduit à l'époque, on aurait splitté comme tous les groupes en fait. Voilà, nous on n'empêche que ce positionnement là où on nous prenait pour des débiles ou pour des tarés, n'empêche ça explique aussi la longévité du groupe en fait. C'est que financièrement parlant on était autonome, donc on n'était pas dépendant de quelqu'un qui mette de l'argent ou pas sur ce projet là. Donc on a pu continuer, et malgré les aléas du marché, de la musique qui a pris un peu cher en 20 ans et c'est plutôt le même microcosme économique, et ça nous a permis d'être dans une continuité en fait. Donc à la base le positionnement était en amont de ça, mais n'empêche que à subir, parce qu'on l'a subi aussi, tu vois, la crise du marché du disque, bah, c'est ce qui a permis pour nous de résister à ça et de pouvoir survivre à tout ça. Et voilà. Après, en dehors de ça, la base, c'est quand même maîtriser son projet artistique de A à Z. Voilà, c'est ça, l'autoproduction et l'autonomie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fait par défaut, c'est quelque chose qui a été vraiment investi dans l'âme du truc, de ce que c'est. C'est important de faire ça, encore une fois, de viser sur une autonomie, l'autonomie. Voilà.
Tu parlais justement de début des années 2000 où vous aviez eu un petit peu de succès sur votre premier autoproduit. C'était une période aussi où le ska avait quand même vraiment le vent en poupe, notamment en France, mais je crois aussi un peu partout en Europe. Et quel regard là vous portez dans le groupe sur la scène punk, ska punk actuelle?
Alors, pour reprendre sur le déroulé, nous on a fait du ska punk assez rapidement. On était fans de Cortatou, on était fan de la scène allemande de Revival et tout ça. Et ce qui est sûr, c'est que personne ne savait ce qu'était le ska. Quand on a fait notre première maquette autoproduite en cassette, enregistrée à la répète, et qu'on envoyait ça par la poste à l'autre bout du département, si tu veux, on était dans quelque chose de... fallait expliquer aux programmateurs, c'était on est un groupe de ska, mais c'est quoi le ska? C'était un style qui était désuet. Vraiment, tu vois, c'est du reggae rapide, c'est madness, ça a l'air un peu plus punk, hein, ok, d'accord. Et en effet, tout d'un coup, le business de la musique marche comme ça, on fait tous des musiques de niche et qu'à un moment donné t'as un gros projecteur qui arrive sur ta niche qui dit ben, c'est ça le son qu'il fait. Nous on a eu cette chance qui est complètement conjoncturelle, qui à un moment donné sur notre premier album autoproduit, en effet ça a été pim, ça a été le style tendance, c'était ça en fait. C'est pour ça que ça a marché, c'est pas avec humilité, c'est pas par rapport à notre talent ni quoi que ce soit, hein. C'était la musique qu'il fallait faire à ce moment là et c'est la musique qu'on faisait, donc c'est un hasard, hein. c'est comme ça, la musique ça marche comme ça. Après, comme tout mouvement qui est à la mode et comme tout mouvement de mode, tu as un flux et un reflux qui va être proportionnel à ton flux. Enfin, en gros, concrètement, quand ça devient très à la mode, à la fin, ça devient très has-been. Voilà. Donc, on a connu une espèce d'essor où il y avait 92 groupes de ska qui jouaient tout le week-end en France. Et jusqu'au moment où ça a fini par être, genre, surtout, faut pas dire que tu fais du ska parce que c'est vraiment très has-been. Et si en plus il y a des cuivres, c'est poète-poète, c'est festif, c'est pas bien du tout, quoi. Voilà. Ce que je pourrais te dire, c'est qu'en tout cas, par rapport à nous, on fait la même musique depuis tout le temps en fait, et qu'à un moment donné, tu rencontres un franc succès, et puis à un moment donné, on te dit bah, n'importe quoi cette musique, faut pas faire ça. Tu fais la même chose en fait, et tu peux te dire que tu fais un peu fi aussi des tendances extérieures qui disent que ce que tu fais c'est bien ou c'est pas bien. Donc ça c'est une chose. Après le fait est que sur les moments de mode, on s'est retrouvé avec énormément de groupes qui jouaient, tout ça, avec honnêtement à boire et à manger aussi, on va pas se mentir. Hein. Il pouvait aussi avoir des ambitions un peu plus arrivistes parce que c'était la musique qu'il fallait jouer. Donc on avait du mal à se dire à l'époque, nous on fait ça parce qu'on vient de l'alternative, tout ça. C'était un discours qui était quand même qui passait pas très très bien en fait. Hein, parce que les gens s'en foutaient, en fait, c'était la mode. Et après, l'avantage de quand tu as ce reflux de ça devient un has-been, bon bah tout d'un coup, il y a. Tu remets un peu les choses au clair, ne reste que les groupes qui font ça parce qu'ils font ça, puis point barre en fait. Et que les groupes qui font ça parce qu'ils font ça, il y en a toujours eu sur. Ça se compte sur les doigts d'une main, à peu de choses près quoi. Voilà, on est là-dedans depuis. Alors, ça fait au moins 10-15 ans, il y a peu de groupes en France qui font ce style-là, mais qui le jouent de façon authentique et que ça, ça n'a pas de prix. C'est, voilà, c'est des groupes comme Low Stress. En France, il n'y en a pas Watt 1000. Bah, tu vois, ce soir, on peut jouer avec les caméléons là, qui font leur tournée d'adieu, mais les caméléons, on les croise depuis tout le temps. Après, c'est pareil, t'aimes ou t'aimes pas, n'empêche qu'ils font cette musique-là depuis tout le temps et ça n'a pas bougé, en fait. Hein, et je trouve ça plutôt très chouette, quoi. Dans les anciens, il y a deux semaines, au Zikanstock, on pouvait jouer avec 8-6 Crew qui est dans un autre style de ska, mais qui est dans ce truc-là, et qui est par-delà les aléas de la mode, tu vois. Et voilà, dans l'Est, tu vas avoir Two Tone Club qui va faire un ska assez très Two Tone. Bon, encore une fois, c'est des musiques de niche, c'est des musiques de passionnés, et on ne se retrouve pas dans quelque chose de quantitatif, mais par contre, clairement, très qualitatif, en fait. Voilà. Donc non, en France, clairement, la vague ska, elle est passée par rapport au début 2000, ça n'a absolument rien à voir. Là, on revient dans une... C'est une des racines de la scène alternative en fait, au même titre que le punk rock, que le hardcore, que le psycho ou je ne sais quoi. Tu vois, je reprends en exemple, encore une fois, il y a 15 jours, on était au festival Zikanstock là dans le nord, au Cato Cambrésis, qui est assez, je trouve, assez révélateur de ce qu'est la scène que moi je pourrais appeler alternative, qui va d'un éventail qui va aller du ska, ska roots, au ska punk, au punk tout court, au psycho, au hardcore, et voilà, c'est au-delà de l'esthétique même musicale, c'est plus la côté, c'est plus... plus qui habite la musique et tous les à côté de la musique, exactement, l'état d'esprit et ce microcosme-là qui est foncièrement très associatif et très, très alternatif et très autonome et indépendant. C'est ça qu'on défend, tout autant qu'on est, qu'on soit sur scène ou en face.
Cuando la vi entrar en mi salón, ¡opa! Solo nos miramos para esta pasión. Quiero, yo quiero que me hagas vibrar. Quiero, no quiero pararte de mirar. Quiero, yo quiero contigo jugar. No quiero, no quiero, no quiero jamás parar. Amigos muy ocupados, ¡opa! Yo me ocupo de tus labios pintados, ¡opa! Solo quería hacer su apetito, ¡opa! Para los aburrimientos y gran ritmo. ¡Opa! Quiero, yo quiero que me hagas vibrar, ¡opa! Quiero, no quiero pararte de mirar, ¡opa! Quiero, yo quiero contigo jugar, no, ¡opa! Quiero, no quiero, no quiero.
Au niveau actualité, donc le dernier projet est sorti en 2020, pas un super moment on va dire, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Et puis qu'est-ce qui est dans les tuyaux là? Est-ce que vous êtes en partie compo? Est-ce qu'il y a des clips? Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous faites en ce moment à part tourner?
Alors, en effet, le dernier Eldorado, on l'a sorti 15 jours après, même pas une semaine après, c'était le début du premier confinement, et que, autant dire, ça a été 2 ans sans quasiment jouer, sachant que c'était aussi la tournée des 25 ans, où on a fait la première date en fait, hein. Et puis après ça s'est arrêté, donc là on récupère toute cette tournée-là, en effet, là, cette année, et avec grand plaisir et tout. Là, pour répondre à ta question, dans les projets de production, on est en studio actuellement, là, on travaille sur, il y a 5 titres qui sont en finition, que je m'interroge encore sur comment on va les sortir. Je pense qu'en effet, c'est pas impossible que ça avance plus en morceaux isolés, en single, en tout cas à clipper les morceaux au fur et à mesure. Je vois pas trop, pour le moment, en tout cas, l'intérêt de le sortir en EP ou en album. En tout cas, on a plus envie de s'amuser à sortir les morceaux les uns derrière les autres. Mais en effet, il y a des nouveaux titres là et qui risquent de bastonner un peu.
Voilà. Et ben justement, pour les gens qui veulent se tenir au courant et écouter les prochains titres qui vont sortir, aller voir les clips, quelles sont les bonnes adresses sur internet? Il y a notamment le site et puis quelques réseaux peut-être.
Lostrespuntos.com, hein, c'est un peu la maison mère où là on peut se faire après renvoyer sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Et voilà, et après un peu de curiosité, après au-delà du 2.0, non, la base, parce que nous on vient de là, et c'est ça la musique vivante, il faut venir en concert, c'est la base.
Et on se quitte là-dessus les amis, encore merci pour l'accueil plus que chaleureux comme d'habitude à Bure-sur-Yvette. Et vive le gilet.